Il est 8h.
Avant même cette deuxième vague, tout le monde est sur les genoux. C'est la raison pour laquelle il y a tant de personnes qui ont déserté le bateau avant même que la vague nous arrive.
Des sous-effectifs à l'hôpital, du personnel soignant qui ne veut pas revivre un automne aussi douloureux que le printemps. Reportage auprès des médecins et infirmiers. Et puis l'analyse des chiffres. Les spécialistes voient en ce moment une puissante houle plutôt qu'une vague vite effondrée. Sans attendre les annonces du président de la République ce soir, 19h55, le salon de l'agriculture n'aura pas lieu en 2021. La plus grande ferme fermé. Dans ce journal, le plan du gouvernement contre l'homophobie à l'école, la tournée de Xavier Bertrand auprès des élus LR, un parti qu'il a quitté il y a 3 ans. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ?
Il faut absolument noter ces idées quand elles vous passent par la tête, sinon elles peuvent partir et ne jamais revenir.
Ah oui, c'est ça. Philippe Geluck, qui nous parlera du chat. Nouvel album publié aujourd'hui. Un travail qu'il cultive au quotidien.
Juste après le journal, Stéphane Ravier, le sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, invité politique d'Europe Matin. Il répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Lors de sa dernière interview, c'était le 14 juillet, les soignants venaient de défiler place de la Concorde, aux côtés des militaires, comme si la guerre avait été gagnée. Emmanuel Macron disait vouloir changer de chemin, mais pas de cap. Il parlait des indices de remontée de l'épidémie seulement chez nos voisins. Autant dire que le contexte, en précisément 3 mois, a bien changé.
Alors qu'on évoque un possible couvre-feu dans les villes les plus touchées par le virus, ce matin, nous avons voulu comparer précisément les choses. La vague qui nous arrive est-elle du même ordre que celle du mois de mars? Victor Delande, vous avez fait appel à des spécialistes. On observe tout de même de vraies différences.
Oui, tout d'abord, le nombre de contaminations par jour. Il est actuellement de 20 000. Difficile de le comparer avec les chiffres de la première vague, car la France réalisait très peu de tests. Mais l'Institut Pasteur estime qu'au plus fort de la crise, entre 200 et 400 000 personnes étaient infectées chaque jour, soit 10 à 20 fois plus qu'aujourd'hui. Des contaminations qui se traduisent quelques semaines plus tard en admission à l'hôpital. Et sur ce critère-là également, ça va moins vite qu'en mars-avril, comme l'explique Simon Cauchemez, modélisateur à l'Institut Pasteur.
Durant la première vague, on avait un nombre d'hospitalisations qui doublait tous les 3 jours. Donc ça va extrêmement vite. Ça veut dire que, bien entendu, très très vite, on arrive à saturation. Alors que maintenant, on a des temps de doublement qui sont nettement plus lents, qui sont actuellement sur une majorité de régions supérieures à 3 semaines.
En mars-avril, on a connu une vague très haute, mais elle a cassé très vite. Actuellement, on est plus sur une houle de fond, mais, et c'est bien là le problème, cette vague moins haute devrait durer plus longtemps, probablement jusqu'au printemps prochain. Et sans mesures plus dures pour faire baisser la circulation du virus, la courbe peut s'élever dangereusement à tout moment et avoir des conséquences en bout de chaîne sur les services de réanimation.
Victor Delande et ses services de réa, justement, même dans les régions qui ne sont pas en alerte maximale, ils ont souvent déjà de nombreux patients Covid, une 60aine par exemple au groupement hospitalier de Lens-Béthune.
Sur place, on se prépare à ouvrir de nouveaux lits, mais comme l'a vu Lionel Gougelot, on risque de manquer de soignants.
Avant même cette deuxième vague, tout le monde est sur les genoux. C'est la raison pour laquelle il y a tant de personnes qui ont déserté le bateau avant même que la vague nous arrive.
Dans cet hôpital frappé l'an dernier par une vague de démissions de plus de la moitié des médecins urgentistes, l'absentéisme atteint 20% des effectifs dans certains services. Et les personnels ne sont toujours pas remis des fatigues de la première vague, assure Jean Letocard, infirmier anesthésiste délégué CGT.
Les gens sont épuisés parce qu'il y a un mépris de l'institution. Il y a structurellement toujours un manque d'effectifs. On a perdu 30% des infirmiers. Et puis maintenant, on se plein parce qu'on n'a plus personne pour soigner les gens. Et le Ségur de la Santé a été une vaste fumisterie.
Et ce phénomène d'épuisement des soignants inquiète le docteur Thévenin, président de la commission médicale de l'hôpital de Lens. Des personnels qu'il va falloir, dit-il, accompagner en cas de forte tension dans les services.
La situation est telle qu'on va travailler à effectif constant. Donc ça veut dire déjà que l'on garde le personnel. Et donc garder le personnel, c'est prendre soin du personnel. On essaye de mettre en route des suivis psychologiques et surtout d'essayer de détecter ces gens, leur proposer éventuellement une thérapie ou une aide pour accepter cette résilience.
Reste malgré tout une incertitude sur l'ampleur de cette seconde vague. Et l'espoir ici comme ailleurs, c'est que les mesures sanitaires des pouvoirs publics permettent de limiter les admissions massives à l'hôpital. Lance Lionel Gougelot, Europe 1.
Et malgré le Ségur de la Santé et les augmentations obtenues, les soignants sont appelés à la grève demain par les syndicats CGT, Sud, CFE-CGC et plusieurs collectifs.
C'est un séisme pour toute une profession et bien au-delà. Il n'y aura pas de salon de l'agriculture en 2021.
Le plus grand événement annuel de France avec ses 600 à 700 000 visiteurs, des familles purement parisiennes, des professionnels venus de tout le pays et de l'étranger, massés entre les enclos et les étalages de délices du terroir. Le risque était trop fort, mais les premières victimes de cette annulation sont les éleveurs, comme Joël Silac, qui vient d'habitude avec ses vaches bazadaises.
Malheureusement, on n'est pas surpris, mais bien sûr, nous sommes malheureux. Chaque année, on se prépare à aller au salon de l'agriculture. Au-delà de l'importance de, en tant qu'éleveur, sélectionneur, de montrer nos meilleurs animaux, c'est un lieu de rencontre, le salon de l'agriculture. Et c'est vrai que nous sommes dans un métier où on est de plus en plus isolé, où on est tout seul dans nos tracteurs, au fond, dans nos étables. On se dit, quand on se retrouve, c'est notre bon sens paysan, on se dit, on n'a pas perdu, et il y a tous nos réflexes qui reviennent. Et ce contact-là ne va pas exister en 2021. Et c'est quand même aussi Paris, c'est le lieu où on rencontre nos consommateurs. Ce sont des gens qui nous apprécient, et qui viennent vers nous, et c'est normal qu'on aille vers eux aussi. C'est une grande manifestation qui va nous manquer.
Joël Silac, joint par Olivier Samin.
Et cette question, elle va se poser, vous le savez, hein, pour nombre d'événements. Le Salon de l'Agriculture s'était tenu juste avant le confinement l'an passé, et c'est au mois de mars. La question va se poser pour tous les événements du printemps. Le président du Conseil scientifique parle d'un Covid avec lequel il faudra vivre au moins tout le printemps prochain.
Et avant même cela, notez cette information Europe 1 concernant les vacances de la Toussaint. C'est samedi, on observe en moyenne 50% de réservations en moins par rapport à la même période l'an dernier, selon les chiffres des offices de tourisme de France.
8h06 sur Europe 1, on ne l'entend pas dans les médias, mais François Baroin est en pleine tournée des élus Les Républicains. Il leur annonce, l'un après l'autre, qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle.
Et de son côté, Xavier Bertrand fait l'inverse. Il rencontre tout son ancien parti pour montrer sa détermination. Réunion de travail encore aujourd'hui avec de jeunes députés LR. La place semble se dégager, Aurélie Herbement.
Ma logique est très sarkozyste, confie Xavier Bertrand. Il faut rassembler, d'où son opération séduction. Un déjeuner prévu avec Nicolas Sarkozy début novembre et des rencontres avec tous les élus possibles. Des jeunes députés aujourd'hui, des sénateurs la semaine prochaine. Après avoir déjà vu Éric Woerth, Guillaume Pelletier, Damien Abad ou Christian Jacob, qu'il doit revoir bientôt, et même Jean-François Copé, malgré des relations houleuses par le passé. Rachida Dati lui a glissé ce conseil, voit tout le monde, il a besoin de nous, s'amuse un élu, avant d'admettre que la réciproque est vraie. Sans Baroin, il ne reste que Bertrand. Xavier Bertrand qui l'assure, après avoir franchi la barre des 15% dans un sondage, les regards changent car ça devient possible. Problème, certains lui résistent. Il se veut incontournable, mais c'est un tordu. Il faut qu'il fasse pénitence, tacle des parlementaires qui n'ont pas digéré son départ de LR, parti qui devra d'abord l'aider à être réélu président des Hauts-de-France, sans quoi il peut oublier 2022.
Cette information, Europe 1 du service police-justice, un policier est hospitalisé entre la vie et la mort après avoir été renversé par le conducteur d'une voiture volée. Ça s'est passé cette nuit vers 1h30 du matin à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne.
Vous restez bien avec nous dans un tout petit instant. La lutte contre l'homophobie et la transphobie, cela commence dès l'école.
Et puis, le retour du chat de Philippe Geluck.
Je vous jure que, en trouvant mes conneries, je pleurais de rire à ma table à dessin, tout seul, comme un imbécile.
Et il n'est pas un imbécile et il nous parle de son animal dans un instant.
A tout de suite, 8h08.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Le gouvernement s'attaque aux discriminations contre les personnes LGBT. Un plan de 180 mesures présenté aujourd'hui par la ministre Elisabeth Moreno. Il s'agit notamment de faciliter l'adoption par les couples homosexuels, adoption qui est légale depuis 2013.
Le plan concerne aussi le quotidien des personnes homosexuelles ou transsexuelles. Il faut dire, Ève Roger, que l'homophobie s'exprime très tôt.
Oui, selon les associations, l'homosexualité concernerait un enfant par classe en moyenne, 1 sur 30 donc, souvent moqué, souvent spectateur muet de l'insulte la plus lancée dans les cours de récré, PD. Un harcèlement à l'origine de beaucoup d'échecs scolaires, mais aussi d'un risque 4 fois plus élevé de suicide pour les homosexuels et de 7 fois plus pour les trans. La ministre Elisabeth Moreno a donc décidé de créer un site internet pour les enseignants sur l'homophobie, comme il en existe pour le racisme et l'antisémitisme. Ils épiocheront des activités à faire en classe, des idées de sortie pour déconstruire l'homophobie, d'ailleurs inscrite dans les programmes scolaires à partir du CP, comme la transphobie à partir du collège. Autre mesure, enseignants et personnels vont recevoir un guide pour mieux accueillir les élèves transsexuels à l'école. Ils devront les appeler par le prénom de leur choix, mais aussi le pronom de leur choix, il, ou elle.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1.
Voici donc que le chat est parmi nous. C'est le titre du 23e album de la série de Philippe Geluck.
Imaginé et dessiné dans son atelier à Bruxelles pendant le confinement, Mathieu Charrier l'a lu en avant-première pour Europe 1.
Le premier dessin laisse penser que cet album va être consacré entièrement à la crise du Covid. On y voit Zorro porter son masque noir, mais sur les yeux évidemment, expliquant « faites comme moi, portez un masque ». À côté de lui, le chat lui répond « il a bien fait de choisir justicier plutôt que prix Nobel de médecine ». Mais très vite, comme dans chaque BD de Geluck, le chat divague et constate que les seules personnes qui peuvent partir au boulot en vélo d'appartement sont celles qui travaillent chez elles. Philippe Geluck.
Il n'y a pas de risque de se faire piquer le vélo. Il ne faut pas mettre un cadenas ou alors les paranos. Mettre peut-être chez eux un cadenas sur le vélo d'appartement.
Vous n'avez pas à un moment donné imaginé pouvoir faire un album que sur le Covid ou ce qui se passe en ce moment ?
Non, parce que je me suis dit à un moment que tous les couillons que je connais allaient s'empresser de le faire. Et il a un ton particulier qui est plus léger parce que j'ai le besoin de faire rire, d'apaiser.
J'adore fermer les yeux quand je regarde la télé. Ça me rappelle la radio, remarque encore le chat. Il faut noter que la moitié des dessins de cet album sont des inédits, jamais publiés dans la presse. Un dernier pour la route. Le chat note que si on y réfléchit bien, le Titanic a été plus longtemps un sous-marin qu'un paquebot.
C'est signé Philippe Geluck, qu'on entendra aussi dans Culture Média entre 9h et 11h sur Europe 1 avec Philippe Vandel. Le foot, Croatie-France ce soir 20h45 en Ligue des Nations à Zagreb. Par ailleurs, le Portugais Cristiano Ronaldo, qui a joué dimanche soir contre les Bleus au Stade de France, a été contrôlé positif au Covid hier, comme deux de ses coéquipiers.
Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h12.